compagnie Idrissa Seydoudia.
Au micro, Idrissa Seydoudia, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, bonjour. Au Nigeria, toutes les 279 adolescentes enlevées vendredi dernier dans leur pensionnat de Dianguebe dans le nord-est du pays ont été libérées mardi matin et sont actuellement dans les locaux du gouvernement de Zamfara, a annoncé à l'AFP le gouverneur de cet État, Dr Bello Matawalé. Par ailleurs, toujours au Nigeria, des djihadistes liés à l'État islamique dans le nord-est ont attaqué lundi une base de l'ONU dans la ville de Dikwa et tenté dans la soirée de pénétrer dans un espace sécurisé où sont réfugiés 25 travailleurs humanitaires, selon des sources sécuritaires et humanitaires hier soir. Au Niger, l'opposant Ama Amadou a été emprisonné lundi à Niamey après 3 jours de garde à vue pour son rôle présumé dans les troubles ayant suivi la proclamation des résultats de la présidentielle. Notre correspondant Abdulrazak Idrissa nous donnera les détails. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko est convoqué mercredi matin pour répondre aux questions de gendarmes dans une affaire de viol présumé dont il est accusé. Claire Morin-Jubourg nous en parlera. Au Tchad, le principal opposant du pays, Saleh Kebzabo, a retiré lundi sa candidature à la présidentielle du 11 avril, au lendemain d'une tentative sanglante d'arrestation d'un autre candidat. Nous reviendrons sur les récents développements dans son pays en seconde partie de cette édition avec Abdourahman Diab. Selon un rapport publié lundi par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, un regain de discours et messages incitant à la haine a été enregistré en RDC dans un contexte de compétition politique. La propagation rapide des discours haineux en République démocratique du Congo à travers notamment les réseaux sociaux, les radios locales, les tracts et la presse écrite est un sujet de préoccupation majeure, en particulier depuis la fin des élections du 30 décembre 2018, peut-on lire dans ce rapport. Ces discours sont pour la plupart liés au débat sur la citoyenneté congolaise, à la persistance de l'impunité, aux conflits fonciers et autour de la transhumance, aux compétitions pour le pouvoir et à la diffusion de fausses nouvelles selon le même rapport. Par ailleurs, toujours en RDC, 15 personnes, dont l'âge varie entre 60 et 80 ans, sont décédées en février après avoir contracté une maladie non identifiée qui sévit depuis un mois dans une province de l'Ouest, dans la zone de santé de Kasongo-Lunda. Selon le gouverneur de la province de Kwango, Jean-Marie Petit-Petit, le malade commence par avoir des maux de tête, puis des douleurs partout, de la fièvre, puis des complications respiratoires avant de décéder, a-t-il expliqué à l'AFP. Coronavirus, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont été lundi les premiers pays à vacciner contre le Covid-19 grâce au dispositif COVAX destiné aux pays pauvres, tandis que les États-Unis se préparaient à l'arrivée du vaccin de Johnson & Johnson. Le Nigeria recevra ce mardi près de 4 millions de doses de vaccins financées par le dispositif COVAX. L'OMS a jugé lundi irréaliste de penser que l'on se débarrassera du COVID-19 d'ici la fin de l'année, mais qu'il serait néanmoins possible de faire baisser les nombres d'hospitalisations et de décès. La pandémie a fait au moins 2,53 millions de morts dans le monde, selon un bilan de l'AFP lundi. Les États-Unis ont appelé lundi l'Arabie saoudite à démanteler l'unité d'élite saoudienne proche du prince héritier Mohammed bin Salman, unité déjà sanctionnée pour son rôle dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Washington exhorte aussi Riyad à adopter des réformes institutionnelles systémiques ainsi que des mécanismes de contrôle pour faire en sorte que les activités et opérations contre les dissidents cessent et cessent totalement, a déclaré le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price devant la presse. Dans un rapport déclassifié du renseignement américain publié vendredi mercredi, les États-Unis accusent le puissant prince héritier d'avoir validé l'assassinat du journaliste saoudien en 2018, mais ils n'ont pas sanctionné le jeune dirigeant, ce qui a valu des critiques à l'administration Biden. La suite de nos informations, au Niger, l'opposant Ama Amadou, accusé par le ministre de l'Intérieur d'être l'instigateur des manifestations violentes qui ont suivi la proclamation des résultats du second tour de l'élection présidentielle, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le procureur du tribunal de Niamey. Précision de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Selon l'avocat de M. Ama Amadou, une dizaine de chefs d'accusation ont été retenus contre son client qui a passé sa première nuit à la prison civile de Filengué, Maître Moussi Boubacar.
Il y a par exemple participation à une organisation tendant à des actions tendant à changer un régime constitutionnel, il y a association de malfaiteurs, il y a des propos ethno-régionalistes, ethniques et racistes, incitation à la violence et au trouble. C'est ridicule quand même.
En plus de Ama Amadou, trois autres responsables ont été placés sous mandat dépôt par le procureur. Il y a notamment le général à la retraite Moumouni Bourema, ancien chef d'état-major de l'armée, qui se trouve lui à Wallam, à une centaine de kilomètres de Niamey, la capitale. Beaucoup d'observateurs s'interrogent sur un risque d'escalade des manifestations avec cette nouvelle situation, mais surtout avec la privation des populations de la connexion Internet qui perdure depuis une semaine maintenant. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko est convoqué demain matin pour répondre aux questions des gendarmes dans une affaire de viol présumé. L'Assemblée nationale a levé vendredi son immunité parlementaire. Hier, son parti, PASTEF, les Patriotes, a dénoncé l'arrestation de près de 80 de ses partisans, disant qu'ils sont les otages politiques du président Macky Sall. Claire Morin-Gibourg.
Une coalition de 20 syndicats d'enseignants a lancé hier un appel à une grève de 24 heures en signe de protestation contre l'arrestation de deux enseignants réputés partisans d'Ousmane Sonko. Auparavant, des activistes connus comme Hassan Diouf, Clédor Sen et Guy-Marius Sagna, ainsi que des militants ou sympathisants du parti d'Ousmane Sonko, ont été interpellés après avoir voulu manifester en faveur de l'opposant. Arrivé troisième lors de la présidentielle de 2019, Ousmane Sonko a fait l'objet début février d'une plainte pour viol et menace de mort déposée par une employée d'un salon de massage. Le député de 46 ans nie ces accusations et crie au complot pour l'écarter de la présidentielle en 2024. Vendredi, l'Assemblée nationale a levé son immunité, ouvrant la voie à une convocation par la justice à laquelle il a déjà indiqué qu'il ne répondrait pas. Depuis, de nombreux jeunes et sympathisants qui manifestaient près de son domicile ont été interpellés le 8 février après des heurts avec les forces de l'ordre. La police sénégalaise s'est refusée à tout commentaire.
À peine arrivée, la nouvelle chef de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a appelé lundi à débloquer les négociations sur les aides à la pêche au premier jour d'un mandat historique à la tête d'une institution en crise en pleine pandémie. Nathalie Barge.
J'arrive dans une des plus importantes institutions du monde et on a beaucoup de travail. Je me sens prête à lancer la première femme et la première africaine à diriger l'Organisation mondiale du commerce à son arrivée au siège de l'institution à Genève en Suisse. Ngozi Okonjo-Iweala a inauguré une sculpture sur glace en représentant des poissons en compagnie de l'ambassadeur colombien Santiago Wills, président des négociations sur les subventions à la pêche qui sont au point mort. Nous avons vraiment le sentiment que la surpêche, la surcapacité et la pêche illégale sont des facteurs qui nuisent à la durabilité, a-t-elle déclaré en appelant à achever les négociations le plus rapidement possible. Deux fois ministre des Finances et chef de la diplomatie au Nigeria durant deux mois, Madame Okonjo-Iweala remplace le Brésilien Roberto Azevedo qui a quitté ses fonctions en août dernier, un an avant la fin de son mandat.
À Minute Écho, John Linden.
La dette publique du Congo a atteint 100% du PIB en 2020, selon le Fonds monétaire international. Elle reste insoutenable d'après l'institution qui table sur une baisse en 2021 pour se situer autour des 87% du PIB. Dépendant du pétrole, qui représente plus de 80% des revenus, le Congo connaît une conjoncture difficile avec la dépréciation des cours sur le marché. La dette publique du Congo avait déjà atteint un niveau record de 117% du PIB. C'était en 2017. Air Sénégal SA se dote d'un deuxième avion de type Airbus A321. L'appareil, configuré pour accueillir 165 passagers, a été réceptionné à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar en provenance de Montpellier. Ibrahim Khan, DG de Air Sénégal, a déclaré que ce deuxième appareil résulte d'un effort et de l'ambition du Sénégal à porter au plus haut niveau sa compagnie nationale.
Et maintenant les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La finale de la CAN des moins de 20 ans opposera le Ghana à la Tunisie. Les Black Starlets ont battu la Gambie 1-0 en demi-finale hier. Dans la seconde demi-finale, l'Ouganda a su classer la Tunisie 4-1, grâce notamment à son attaquant en feu, Derek Kakuza, auteur d'un triplé au stade olympique de Nouakchott en Mauritanie. L'attaquant ougandais est désormais le meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations. L'Ouganda réalise ainsi un coup de maître pour sa première participation à cette phase finale de la CAN des moins de 20 ans. En finale samedi, il affrontera le Ghana, triple vainqueur de ce tournoi vendredi. Tunisiens et Gambiens s'opposeront pour la troisième place. En Espagne, la police catalane a annoncé avoir procédé à plusieurs arrestations après ses perquisitions au siège du FC Barcelone. Selon la radio Cadena Ser, l'ancien président du club, Josef Maria Bartomeu, fait partie des cibles. La Cadena Ser a su que le directeur général en place, Oscar Grau, et le directeur juridique, Roman Gomez Ponti, ont été interpellés. Selon les médias espagnols, les perquisitions menées au siège du FC Barcelone sont liées à l'enquête sur le Barça Gate, une affaire qui a fait surface il y a un an. Le 17 février 2020, en effet, le FC Barcelone a démenti être à l'origine d'une campagne de calomnie visant des figures du club sur les réseaux sociaux dans le but d'améliorer l'image de Josef Maria Bartomeu, qui a démissionné le 27 octobre dernier. Cette opération policière intervient à 6 jours des élections pour la présidence du FC Barcelone, prévue dimanche, où les socios, entendez supporters actionnaires, seront appelés à choisir entre Juan Laporta, Tony Freixa et Victor Font. Ici en NBA, le pivot franco-américain Joakim Noah, sans club depuis qu'il a été libéré de son contrat avec les Los Angeles Clippers cet hiver, a décidé à 36 ans de prendre sa retraite des parquets après 13 saisons passées en NBA, rapporte The Athletic. Après avoir été 2 fois champion universitaire avec les Gators de Floride en 2006 et 2007, Noah, fils de l'ancien tennisman Yannick Noah, a été drafté en juin 2007 en 9e position par la franchise de l'Illinois. En 9 saisons entre 2007 et 2016, il a joué les playoffs 6 fois d'affilée de 2009 à 2014, atteignant la finale de la conférence Est en 2011. Après son aventure aux Bulls, il s'est engagé avec les New York Knicks de 2016 à 2018 avant de poursuivre sa route à Memphis chez les Grizzlies entre 2018 et 2019. Et après une vilaine blessure à un tendon d'Achille, les Clippers l'ont recruté en mars 2020. Désigné meilleur défenseur de la Ligue en 2014, il est devenu cette année-là le 2e Français après Tony Parker à participer au All-Star Game.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La tension monte au Tchad à quelques semaines de la présidentielle du 11 avril. Le domicile de l'un des candidats, Yahya Diallo, un ex-allié du président Idriss Déby Itno, qui a récemment critiqué la fondation de la Première Dame, a été violemment investi ce week-end par les forces de sécurité.
Son mouvement politique dénonce la mort de 5 membres de sa famille, dont sa mère et son fils, mais le ministère des Affaires étrangères parle de rébellion armée. Le principal opposant, Saleh Kebzabou, s'est retiré de la course à la présidence suite à ces incidents. Joint à Paris par Abdelrahman Dia, le blogueur tchadien Makaila Ngebla.
Un groupe de militaires était venu vouloir l'arrêter, il a refusé. Les samedis, les choses sont accélérées à 3h du matin. Et des hommes en armes étaient venus tirer à balles réelles devant sa maison. Ils ont tué sa maman, ils ont tué son fils, ils ont blessé sa sœur qui est aussi décédée à la suite d'hémorragie. Ils ont également abattu 3 de ses cousins. Et donc, il y avait dans cette échange de tir, il y a dû à résister parce qu'il y avait beaucoup de gens de ses proches qui étaient au sein de la grande famille. Et donc, la situation est partie ce dimanche matin. Il y a plein de monde qui était venu de partout, y compris même de la garde présidentielle, venu renforcer, le protéger, faire face aux chars de débit, etc. Donc, c'est une situation extrêmement inquiétante.
Alors, est-ce qu'on a des nouvelles de Dilo lui-même?
Justement, Dilo, actuellement, il a été exfiltré par des officiers tchadiens qui l'ont mis à l'abri parce qu'ils ont estimé que ce qu'il fait des billets est inadmissible, le fait de tuer sa mère qui est âgée de 80 ans. Donc, Dilo est en lieu sûr actuellement, il est en lieu sûr et il lance un appel également aux forces militaires, surtout à toutes les forces politiques et les forces militaires, afin qu'elles vraiment se prononcent sur ces questions. Il a également interpellé la communauté internationale sur le processus électoral au Tchad et il a demandé effectivement de l'aide. Pourquoi de l'aide? Parce qu'il estime que sa vie est menacée, la vie de ses parents, de ses proches est menacée, donc la situation est extrêmement inquiétante.
Est-ce que c'est une situation qui pourrait un peu secouer la coalition du président Déby ou alors son groupe ethnique?
Tout à fait, c'est une question pertinente. Le pouvoir Déby aujourd'hui, il est miné de l'intérieur, il est fragilisé de l'intérieur. Parce que personne n'a cru cela, même au niveau de la France, personne n'a s'attendait à ce qu'il y ait une fracture au sein de la famille Déby. Et nous, on le savait depuis plusieurs mois, on savait le fait qu'il y ait Dilo s'est retranché à l'est du Tchad, le fait que des officiers tchadiens le protègent, on savait très bien que le pouvoir Déby est fragilisé de l'intérieur, même si l'armée tchadienne s'est battue au niveau international contre le groupe terroriste. Mais aujourd'hui, le fait qu'hier, on n'a pas pu arrêter Dilo, cela montre nettement que le pouvoir Déby est plus qu'exposé à un danger.
Et pour ce qui est du processus électoral, on a vu que l'un des principaux opposants, Saleh Kebzabou, a retiré sa candidature, en tout cas annoncé qu'il n'allait plus se présenter à cause de tout cela, de la situation politique.
Tout à fait. Saleh Kebzabou, en tant que député et chef de file de l'opposition, surtout, a décidé de se retirer parce qu'il s'est rendu au lieu de drame dans la famille de Yaya Diallo. Il a constaté lui-même la gravité de la situation et s'est retiré. Donc le processus électoral qui est déjà entaché de plusieurs irrégularités qui a été relevé par le membre de l'opposition et même les membres de la société civile. Aujourd'hui, nous pensons que le processus électoral n'est plus effectivement d'actualité et qu'il est hors de question que l'élection présidentielle se tienne dans ces conditions-là.
Le blogueur tchadien Makaila Ngebla, joint à Paris.
Direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
L'actualité sportive en Afrique est dominée par les tractations autour de l'élection à la présidence de la Confédération africaine de football prévue pour le 12 mars. La FIFA presserait 3 des prétendants à se ranger derrière le 4e, le Sud-Africain Patrice Motsepe, selon des sources proches des candidats. Selon ces dernières, Augustin Senghor du Sénégal et Ahmed Yahia de la Mauritanie seraient prêts à accepter la proposition de la FIFA contre les postes de premier et deuxième vice-président de la CAF. Jacques Anouma de la Côte d'Ivoire, le 4e candidat, se verrait proposer un poste de conseiller du président. Yacouba Ouedraogo a joint l'un des révélateurs de cette information, Abdoulaye Thiam, notre confrère de Sud Quotidien, au Sénégal.
En tout cas, c'est la proposition qui a été faite par la FIFA, plus particulièrement par le président de la FIFA, Gianni Infantino, par l'intermédiaire de ses deux émissaires qu'il a envoyés à Rabat. Il s'agit d'un Suédois du nom de Macas, qui se trouve être un de ses principaux assistants, et l'autre qui est un Suisse-Congolais qui s'appelle Ferrand, qui s'occupe du département développement du football au niveau de la FIFA pour le compte de la FIFA. Je pense que tout est rentré dans l'ordre, sauf quelques petites conciliabules qui devraient être effectivement arrondies, notamment lors de la prochaine rencontre qui est prévue à Nouakchott où l'ensemble des quatre candidats devraient se retrouver.
Qu'est-ce à dire? Les trois autres candidats en dehors du Sud-Africain renoncent ou ils vont à l'élection?
S'ils acceptent la proposition, forcément, ils renoncent à aller à la compétition. Mais comme vous le savez très bien, la présidence de la CAF, ce n'est pas une question de candidature personnelle. La question de candidature de la CAF, c'est tout un État, c'est tout un pays. Donc forcément, Augustin Senghor, il va falloir qu'il en parle avec le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall. Forcément, le Mauritanien, il va faire la même chose. Forcément, l'Ivoirien aussi retournera pour discuter avec Alassane Dramane Ouattara, parce que tous, ils avaient reçu la caution de leur président de la République.
S'il y a quatre candidatures, c'est que chacun a sa vision du football africain. Est-ce un arrangement entre dirigeants ou encore un arrangement autour de ce qui doit être le football africain?
Augustin Senghor, je crois qu'il a fait une déclaration qui était plus ou moins prémonitoire de ce qui allait se passer à Rabat. Il avait dit clairement, je me suis après une audience que le président Alpha Condé lui avait accordé de sortir devant les médias, je ne suis pas contre mon retrait, mais à une seule condition, que celui qui doit prendre la Confédération africaine de football soit à même de mener à bien les destinées du football africain. Prennent en charge l'ensemble de nos grèves et qui prennent en charge aussi l'ensemble des programmes. Donc forcément, il y aura une fusion de l'ensemble des projets.
Vous dites, sur proposition du président de la FIFA, Gianni Infantino, ce seraient peut-être les mêmes arrangements qui ont eu lieu sous Hamad qui vont continuer.
Oui, dans tous les cas de figure, ce qu'il faut constater et le déplorer, c'est que dans cette affaire, l'ingérence de la FIFA, plutôt, elle est flagrante. Si Gianni Infantino se permet de faire ce qu'il fait en Afrique, qui est le responsable? Ce sont les Africains. Si on veut mettre le holà, c'est à nous de prendre notre responsabilité. Gianni Infantino a sillonné l'Afrique. Il a partout été reçu par des tapis rouges et ce sont des chefs d'État africains qui l'ont reçu. Du Caire au Cap, de Dakar à Djibouti, partout où il est passé, on l'a reçu en pleine campagne.
Sauf en Côte d'Ivoire.
En pleine campagne électorale qui concerne la CAF. Donc, sauf la Côte d'Ivoire. Là aussi, mon événement est tellement grand, ça dépendra maintenant de ce qu'il va sortir. Je trouve même que ce n'est pas normal qu'un président de la FIFA puisse aller au Sénégal qui est un candidat, puisse aller en Afrique du Sud qui est un candidat, puisse aller à Mauritanie qui est un candidat et ne pas aller en Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas respectueux des Ivoiriens. Si, non. Bien sûr, il n'a pas tenté d'aller en Côte d'Ivoire et que le président ivoirien, comme les rumeurs qui circulent, lui aurait dit que son agenda ne lui permet pas de le recevoir.
Abdoulaye Thiam, notre confrère de Sud Quotidien, au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné ce lundi à 3 ans de prison, dont un ferme pour corruption et trafic d'influence. Président de 2007 à 2012, Sarkozy, âgé de 66 ans, n'ira cependant pas en prison, aucun mandat de dépôt n'ayant été requis par le tribunal. Cette condamnation intervient alors que M. Sarkozy doit faire face à nouveau à des juges dès le 17 mars dans l'affaire Pygmalion sur les frais de sa campagne présidentielle de 2012. John Linden a joint à Paris Abdelaziz Moundé, journaliste et consultant en relations internationales.
Oui, comme on peut l'imaginer, c'est un vrai séisme médiatique. La décision était attendue déjà dès les premières heures de la matinée. Mais tous les médias, des chaînes d'information en continu ont été sur le qui-vive. Toute la presse d'information générale, la presse politique, tout le landerneau politique attendait cette décision parce que, comme on l'imaginait, l'enjeu était de savoir si oui ou non un deuxième président de la République allait être condamné à de la prison ferme ou à un sursis après la condamnation de Jacques Chirac.
Il est condamné pour corruption et trafic d'influence. Pour ceux de nos auditeurs qui n'ont pas suivi ce feuilleton, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus?
Oui, il s'agit d'une affaire qui est rocambolesque puisque c'est dans le cadre d'une enquête qui impliquait Nicolas Sarkozy dans la question du financement libyen de sa campagne de 2007 que les enquêteurs ont découvert une ligne téléphonique secrète qui était utilisé par Nicolas Sarkozy pour communiquer avec son avocat Thierry Herzog. Et dans les investigations donc de la police, on a découvert que Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog discutaient d'une possibilité pour Nicolas Sarkozy d'accorder un avantage sous la forme d'un poste à un haut magistrat, Gilbert Azibert, qui était juge à la Cour de cassation, qui sollicitait un poste à Monaco. Et donc, Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog discutant non de cela, les juges qui enquêtaient, les enquêteurs du parquet national financier qui enquêtaient sur une affaire concernant le financement libyen, une enquête dans laquelle Nicolas Sarkozy est mis en examen, eh bien, ont découvert cette ligne-là. Et donc, cette affaire qui concerne des faits de corruption et de trafic d'influence, dont dites l'affaire Paul Bismuth, est une des 10 affaires dans lesquelles Nicolas Sarkozy a été impliqué ces 10 dernières années, pour laquelle, in fine, il a été donc condamné ce midi à Paris, donc entre 13h et 14h, au moment où le tribunal a communiqué sa décision, où il a été condamné donc à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis et une ferme.
On note cependant qu'aucun mandat de dépôt n'a été émis à son encontre. Ça veut dire qu'il n'ira pas en prison?
Oui, ça veut dire que dans l'immédiat, il n'ira pas en prison. Le premier appel qui a été interjeté a été celui de son avocat Thierry Herzog, qui a été lourdement condamné, qui en plus de la peine de sursis et de la peine ferme, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les 3 années de sursis, dont 2 de sursis et 1 année ferme, a été condamné à 5 ans d'interdiction de la pratique de la profession d'avocat pour un ancien chef d'État. Je vois, pour le rappeler difficilement, comment Nicolas Sarkozy va se déployer de façon aussi énergique, de façon aussi sereine qu'il n'en avait l'habitude.
Abdelaziz Moundé, journaliste et consultant en relations internationales. Lors de la conférence d'action politique des conservateurs en Floride dimanche, l'ancien président américain Donald Trump a critiqué la politique de son successeur Joe Biden et a réaffirmé son leadership sur le Parti républicain. Dans son premier discours public depuis qu'il a quitté ses fonctions, M. Trump a laissé entendre qu'il pourrait se présenter à nouveau en 2024. Un reportage de Patsy Vedakuswara, correspondante de VOA, à la Maison-Blanche, relaté par Nathalie Barge.
Lors de la conférence d'action politique des conservateurs en Floride dimanche, les participants se sont empressés de témoigner de leur soutien à Donald Trump. Henrietta Amé, militante pro-Trump.
Je suis ici pour soutenir le président Trump jusqu'au bout. Il est le meilleur président que je connaisse.
L'événement annuel, une plateforme pour mettre en évidence les idées conservatrices, était consacré cette année à Donald Trump, qui n'a pas manqué de critiquer son successeur, le président Joe Biden.
Joe Biden a connu le premier mois le plus désastreux de tous les présidents de l'histoire moderne, c'est vrai. L'administration Biden a déjà prouvé qu'elle était anti-emploi, anti-famille, anti-frontières, anti-énergie, anti-femmes et anti-science.
Joe Biden a passé le dimanche à l'église avec sa famille dans le Delaware. La Maison-Blanche n'a pas voulu s'étendre sur ce rassemblement qui a ramené Donald Trump sur la scène politique. James Psaki, attaché de presse de la Maison-Blanche.
Nous n'allons pas passer trop de temps ici à nous concentrer ou à parler du président Trump, l'ancien président Trump.
Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait se présenter à nouveau en 2024 et a clairement indiqué qu'il a l'intention de garder le contrôle sur le parti, bien qu'il soit critiqué par certains républicains pour les émeutes de ses partisans au Capitole le 6 janvier.
Il n'arrêtait pas de dire que j'allais lancer un nouveau parti. Nous avons le Parti républicain. Il va s'unir et être plus fort que jamais. Je ne lance pas un nouveau parti.
Trump a blâmé certains législateurs républicains qu'il juge déloyaux, dont ceux qui ont voté pour le destituer. Il a continué à affirmer qu'il avait remporté les élections. Une telle position risque d'aggraver les divisions au sein du parti et d'éloigner les modérés. Donald Trump a été acquitté lors du second procès au Sénat intenté par les démocrates, mais n'en reste pas moins dans le collimateur des procureurs de Manhattan qui ont saisi des dossiers fiscaux de l'ancien président après une bataille judiciaire de 18 mois.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.